Merci à toutes et tous pour votre accueil. J'ai du plaisir d'être parmi vous. C'est toujours une joie. Vous vous souvenez peut-être que, bon, ça date un petit peu parce que je viens pas tous les dimanches, mais j'avais commencé par une première prédication lors de vos invitations sur le livre de Ruth. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous en ferai un court résumé. J'avais apporté le chapitre 1, une prédication, chapitre 1, chapitre 2. Et j'ai à cœur de poursuivre et je vous ai préparé donc une prédication sur le chapitre 3 du livre de Ruth. Alors, un bref résumé de la première prédication. Vous vous souvenez dans ce livre qui commence durement, où Élimélec, c'est la famine en Israël. Il manque de tout et un homme qui est marié à une femme, Noémie, eh bien, Élimélec décide de partir en pays de Moab où il a l'impression que la vie sera meilleure là-bas. Donc, ils entament une migration et c'est la descente aux enfers. Cet homme meurt et Naomi perd aussi ses deux fils. Sur de tels deuils, sur une telle remise en question, cette femme décide de retourner en Israël. Elle a deux belles filles parce que ses fils étaient mariés. Et l'une des deux décide de rester dans le pays de Moab, on peut dire pratiquement à contre-cœur. Mais Ruth, la deuxième des belles filles, elle fait vœu de suivre Naomi et de ne jamais la quitter. Et vous vous souvenez de ce verset peut-être dans Ruth 1, chapitre 1, les versets 16 et 17. « Là où tu iras, j'irai. Là où tu habiteras, j'habiterai. Là où ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Et là où tu mourras, eh bien je mourrai aussi, je serai enterré. » Autrement dit, seule la mort dorénavant nous sépare, une promesse extraordinaire, un engagement. Le deuxième message, j'en donne aussi un court résumé, eh bien Ruth va travailler au champ, et puis eh bien Dieu veille. Dieu veille sur elle, Dieu veille sur Naomi. Dieu même conduit, mais on ne le voit pas, elles ne le savent pas, et l'espérance renaît. Rien ne laisse finalement présager un meilleur. Elles sont toujours dans une situation de misère, une situation dramatique. Et Boaz, un riche propriétaire, l'aperçoit dans son champ et il ordonne, et c'est le premier événement positif au fond, il ordonne que personne ne lui fasse de mal et il ordonne même à ses ouvriers qu'il laisse quelques épis en plus de manière à ce que ce soit pas trop difficile pour elle. Nous avions vu que, comme je l'ai dit pour le premier message, Dieu est un Dieu de grâce, il suit ces personnes, il est tout puissant et il connaît toutes choses. Alors nous allons lire le troisième chapitre ensemble. Conseil de Naomi à Ruth. Sa belle-mère Naomi lui dit « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. » Eh bien, Boaz, l'homme dont tu as accompagné les servantes, n'est-il pas notre parent? Or, il doit procéder cette nuit au tri de l'orge qui est dans l'aire de battage. Alors lave-toi, parfume-toi, puis remets tes vêtements. Descends à l'aire. Tu ne te feras pas connaître de lui jusqu'à ce qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il ira se coucher, observe l'endroit où il se couche. Ensuite, va découvrir ses pieds et te coucher. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Ruth lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Verset 6, elle descendit à l'aire de battage et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher au bout du tas des gerbes. Ruth vint alors, tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, Boaz eut un frisson. Il se pencha et vit une femme couchée à ses pieds. Il dit, « Mais qui es-tu ? » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends le pan de ton manteau sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Il dit, sois béni de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, n'aie pas peur. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car tout le monde chez nous sait que tu es une femme de valeur. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il existe un autre parent, plus proche que moi, qui a ce droit. Alors passe la nuit ici. Demain, s'il veut exercer envers toi son droit de rachat, c'est bien qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas de l'exercer envers toi, je le ferai, moi. L'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un et l'autre. Boaz dit qu'on ne sache pas que cette femme est entrée dans l'aire de battage et il ajouta, « Donne le manteau qui est sur toi, tiens-le. » Elle le tint et il compta 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle, puis il entra dans la ville. Ruth revint chez sa belle-mère et Naomi dit, « Est-ce toi ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, « Tu ne retourneras pas les mains vides vers ta belle-mère. » Naomi dit, « Ma fille, reste tranquille jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire, car cet homme ne se donnera pas de repos avant d'avoir réglé tout ça aujourd'hui. » Dieu n'oublie pas. Dans ce chapitre 3, nous sommes à un moment charnière de toute l'histoire. Tout va se mettre en place pour que apparaisse tout petit à petit dans ses vies vraiment le meilleur. Cependant, il faudra beaucoup plus que de la bonne volonté humaine, parce qu'elles ont de la bonne volonté. Il faudra beaucoup plus qu'une bonne intuition aussi de la part de Naomi. Il faudra absolument diverses interventions de la part de l'Éternel pour que les choses se passent comme elles vont se passer. Il faudra son accompagnement. Il faudra la bienveillance de Dieu, la générosité de Dieu, il faudra sa grâce. Il faudra, au fond, si l'on réfléchit bien, eh bien, il faudra ce dont nous avons toutes et tous besoin encore aujourd'hui. C'est ce Dieu qui désire nous suivre, qui désire nous bénir. D'une histoire particulièrement triste, j'en ai fait le résumé du chapitre 1, Dieu la transforme en source d'espérance inimaginable. Et c'est très encourageant pour nous. Or, dans le Seigneur Jésus, parce qu'on peut vivre nous-mêmes des histoires extrêmement difficiles où on a l'impression que ça n'a jamais vraiment bien tourné, eh bien, en Christ, toutes nos histoires, même les plus sombres, même les plus tristes, mais même on a le sentiment que c'est extrêmement raté, toutes nos histoires, un jour, en Christ, je précise bien, en lui, eh bien, un jour se transformeront en bien suprême, en triomphe, parce que c'est une grâce, parce que nous aussi, un jour, nous connaîtrons quelque chose de tellement meilleur que tout ce que nous pouvons traverser comme souffrance ou comme épreuve. Alors, nous arrivons au premier point de ce message que j'ai intitulé, comme elle l'a dit, « Je voudrais ». Et c'est la parole même de Naomi. Je voudrais. Nous contemplons cette détermination extraordinaire de Naomi qui voudrait assurer le repos, assurer le bonheur de Ruth. Nous voyons une femme qui pense non pas tant à elle, mais qui pense à cette fille adoptive qui a fait vœu de la suivre jusqu'à sa mort. Vous le savez peut-être ou pas, mais la Suisse est l'un des pays où par habitant nous sommes les plus assurés, les plus couverts en assurance. Ça ne semble pas garantir pourtant le bonheur. Nous sommes aussi le pays où par habitant il y a le plus, étonnamment, de psychiatres, de psychologues, sans compter tous les travailleurs sociaux, les éducateurs spécialisés, le personnel soignant aussi spécialisé, sans compter encore de nombreuses offres pour retrouver le bien-être, Et vous le remarquez peut-être, tout ce qui est en vogue aujourd'hui, c'est impressionnant, avec l'hypnose, le yoga, des massages un peu particuliers, des pratiques occultes comme le Reiki et d'autres choses. Super assurés, super soignés, et pourtant, nous sommes dans un pays où les habitants sont en quête de quelque chose d'autre. Et quelque chose que nous ne pouvons trouver qu'en Christ, quelque chose que nous ne pouvons trouver que dans notre Créateur. Et nous en sommes témoins. Dans ce sens-là, nous avons une responsabilité, comme Naomi, qui malgré les deuils, malgré les épreuves, a gardé confiance, a gardé espoir. Dans ces versets, nous voyons Naomi généreuse, consciente que fort probablement, eh bien, sa vie est largement dans une dimension où pratiquement la plus grande partie de sa vie est derrière elle et non pas devant. Elle aurait tout loisir par conséquent de se lamenter encore et encore, loisir de pleurer encore et encore, d'être à la charge de cette belle fille qui essayerait de la soutenir tant bien que mal, de se laisser autrement dit couler. Et elle lutte là contre. Je suis sûr qu'elle a dû lutter pour ne pas se laisser couler. Parce que pour Naomi, ça devait être très difficile. Et donc, c'est juste l'inverse. Elle poursuit tout à coup un but. Elle s'est responsabilisée par rapport à sa belle-fille. Elle désire la rendre heureuse. Ça, c'est son but. Et posons-nous la question, si nous avons aussi des buts dans la vie. Je crois, c'est tellement important. Une question se dégage que je me suis posée, mais est-ce que c'est si facile de rendre heureux quelqu'un? Parce qu'elle a un vœu, un but extraordinaire, Naomi. Mais est-ce que c'est un but facile? On peut se dire, c'est quand même pas difficile de faire plaisir. Et pourtant, je suis certain que beaucoup parmi vous ont essayé de vraiment faire plaisir, et dans toutes sortes d'occasions. Et comme moi, j'imagine, vous avez constaté que c'est pas si facile de faire plaisir. Il faut, même pour faire plaisir aux autres, il faut la grâce de Dieu. Il faut non seulement des bonnes intentions, mais nous avons besoin du Seigneur. Et ça nous peut paraître quelque part étonnant. Et pourtant, nous avons, nous le savons, besoin de Dieu quand ça va mal. Nous avons besoin de lui quand nous sommes remplis de soucis, remplis de tristesse, remplis de malheur, évidemment. Mais nous avons aussi besoin de Dieu pour faire plaisir aux autres, pour essayer vraiment de favoriser leur bonheur. Nous pourrions, par exemple, prier ainsi, alors que nous aimerions faire plaisir à quelqu'un. Seigneur, j'aimerais vraiment faire plaisir à ma fille, à mon fils, à mon ami, à mon épouse, à mon mari, à mon voisin. Seigneur, montre-moi ce que je peux faire. Montre-moi ce qui va être pour lui, pour elle, déterminant sur la durée. Seigneur, montre-moi, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Je ne sais pas si Naomi a eu une prière de ce type-là, mais j'ai l'impression qu'elle s'est remise en Dieu pour pouvoir conseiller Ruth. Et ce simple conseil à Ruth, qu'elle a pris d'ailleurs pour un ordre, on le voit au verset 6, elle lui a dit « Je ferai tout ce que tu me dis ». C'est comme un ordre. Eh bien, Naomi, grâce à cela, va changer l'avenir de sa belle-fille, mais elle va aussi changer son propre avenir ou leur avenir commun. Et ça, c'était pas son but. Son but, c'était de rendre heureuse Ruth. Nous arrivons au deuxième point. Je te conseille. Donc c'est un conseil. J'ai dit Ruth l'a pris comme un ordre. Elle a dit je te conseille. Naomi est une femme âgée, mais c'est une femme éclairée. Ça aussi c'est encourageant parce qu'on voit les années qui passent, bien sûr. Et puis l'âge, l'âge c'est l'âge. On voit aussi certaines douleurs, certains maux, mais ça nous empêche pas d'être avisés, d'être éclairés. Après avoir connu le fond, elle a trouvé une raison de vivre. Elle n'est pas seule. Elle a voulu revoir son pays, elle a voulu retrouver son Dieu, et elle se sent responsable de Ruth. Comme évoqué, loin de se laisser couler, loin de laisser instinctivement ce côté naturel, et puis plonger, eh bien non, elle lutte. Et Naomi, eh bien, pense, mais elle pense positivement, et ça, c'est pas si évident que ça. Parfois, nous nous surprenons à penser, mais à penser dans le négatif. Et elle est dans le positif, elle pense, elle prie, et puis elle agit. Ce qui me surprend infiniment à l'étude de ce texte, c'est qu'elle n'intervient pas elle-même, elle n'intervient pas par derrière. Il me semble, en y réfléchissant bien, que c'est ce que j'aurais fait. Elle ne le fait pas. Pour moi, c'est frappant. Elle aurait pu elle-même aller trouver Boaz, puisque c'était un parent, plutôt que d'envoyer Ruth, sa belle-fille, qui est moabite, et donc est une étrangère pour Boaz, malgré tout, malgré qu'il a reconnu qu'elle a l'air assez valable, cette femme. Mais il y en avait sans doute bien d'autres, des servantes valables dans son champ. Donc, si j'avais été Ruth, eh bien, moi, je serais allé trouver Boaz. Elle ne le fait pas. Elle intervient juste par un simple conseil, seulement au travers de quelque chose qui semble sage, et elle laisse la liberté à Ruth. Je ne sais pas ce que vous auriez fait à sa place. Ça m'a posé pas mal de questions. Elle lui laisse de désirer cette action. Elle lui laisse aussi la possibilité de sentir un peu comment elle va faire. Souvenons-nous, elle est moabite, elle ne connaît pas les coutumes d'Israël. Elle ne sait pas. Naomi, par conséquent, prend le risque que Ruth se trompe. Elle prend le risque qu'elle fasse tout de travers, autrement dit qu'elle se loupe, ou qu'elle loupe, comment on dit, elle loupe la coche. Si Ruth a dû passer par une nuit blanche, ben je pense pas qu'elle a beaucoup dormi dans l'air de battage. Excusez, j'ai l'impression que Naomi n'a pas dû beaucoup dormir, non plus. Elle a responsabilisé sa belle-fille, et puis elle est dans l'attente, et je pense qu'elle prie. Elle lui a laissé piloter toutes les opérations. C'est impressionnant, à mon sens. C'est impressionnant. Elle a le courage, la foi. Elle a la détermination de dire, je lâche prise. Je laisse ma belle-fille faire. Je fais confiance en elle. J'ai confiance en elle et je fais confiance à Dieu. Et puis, on verra ce qui se passera. Moi, je vous le dis, ça m'impressionne. J'aurais envie de dire chapeau bas à Naomi. Je trouve que c'est une héros de la foi, vraiment. Troisième point, Ruth, je le ferai. Je le ferai. Ruth est donc investie d'une mission, puisqu'elle le prend comme un ordre. Les enjeux sont de taille, elle en a conscience. Elle a confiance en elle, et ça c'est admirable, parce qu'avec tout ce qu'elle a vécu, elle aurait pu avoir perdu toute la confiance qu'elle pouvait éventuellement avoir en elle. Elle a confiance dans le conseil de sa belle-mère, donc en sa belle-mère, Naomi, puis elle a confiance en Dieu. Et là aussi, je me dis, ben, Ruth, chapeau bas aussi, c'est aussi une héros de la foi. Elle repart donc au champ pour une journée, mais elle sait que cette journée sera cruciale dans sa vie. Ça peut tourner en bien, ça peut tourner en moins bien, vraiment, elle le sait. Elle a dû repasser en boucle les gestes à faire. Je vous laisse imaginer quand il y a quelque chose dont vous savez que vous devez intervenir et vous avez eu le temps de vous y préparer et vous dites comment je vais m'y prendre, comment je vais faire. Puis vous réfléchissez. Elle a dû passer en boucle les gestes. Elle a dû observer peut-être des lieux, des endroits qu'elle n'avait jamais autrement observés en allant dans les champs. Observer pour ne pas se louper. Ruth devait aussi savoir qu'il était important que personne ne se doute de rien. Fallait pas que d'autres sentent qu'il y avait quelque chose de spécial. C'était simplement entre elle et Naomi et Dieu. Et Ruth ne sait rien des sentiments positifs ou négatifs de Boaz. Elle sait que c'est un homme bienveillant, que c'est un homme aimable, mais à son égard, qu'est-ce qu'elle sait? Peut-être que Boaz est amoureux d'une autre dame. Elle ne sait rien. Et pourtant, eh bien, elle continue à aller de l'avant. Elle sait aussi qu'elle ne doit pas être vue dans l'air de battage. Ça, elle en a conscience aussi. Après, il y a un autre élément, c'est que Boaz, qui lui est très satisfait de sa récolte, et Naomi sans doute avait un peu senti ça, eh bien c'est quelque peu laissé aller, nous le voyons au verset 7, il a fêté ça, alors il a bien mangé, et il a même bien bu, alors on ne sait pas si c'était un Saint-Émilion au premier cru, mais voilà, il a fêté la récolte. Ces circonstances peuvent être par conséquent favorables à Ruth, mais ça peut aussi être des circonstances délicates. Un homme qui a peut-être un tout petit peu trop bu, on ne sait pas trop ses réactions. Alors je ne dis pas qu'il était rond et rond, hein, c'est pas ça que j'essaie de dire. Mais il a fêté la récolte, et puis je pense que, comme le dit le verset 7, son cœur était joyeux. Est-ce que ce sera des circonstances favorables, défavorables, on ne sait pas. Mais Dieu veille. Et c'est ça qui est extraordinaire. Dieu veille. Mais il veille comme dans beaucoup de nos circonstances de vie. À savoir, nous ne le voyons pas. Enfin, je ne sais pas si vous voyez souvent Dieu, mais moi, j'ai beau être pasteur, je le vois quand même pas tous les jours. Je dois aller le chercher, je dois me dire, mais ça, ça vient de Dieu. C'est pas possible autrement. Mais quand on a la tête sous l'eau dans nos journées, qu'on avance, même à la retraite, des fois, on pense plus beaucoup à Dieu. Après notre culte personnel en nous levant. Et puis là, bien, Ruth, elle est comme nous, elle ne voit pas Dieu. Et puis, elle ne sait pas vraiment s'il va intervenir. Mais elle a confiance. Elle a sans doute aussi ses questions, comme nous, ses peurs, ses fragilités. Ce qui la caractérise, c'est sa volonté de bien faire. C'est sa volonté de prendre soin de sa belle-mère et sa détermination d'aller de l'avant. Donc, de ne pas laisser les circonstances l'écraser, alors qu'elle a vécu des circonstances difficiles. Il y a quelque chose qui l'anime, et c'est sans aucun doute la foi. Le Dieu d'Israël, où elle a dit « Ton Dieu sera mon Dieu », elle a vécu, elle vit encore des expériences avec lui. Une tournure inattendue, quatrième point et dernier. Avoir froid peut parfois porter chance. Dans ce texte, si quelque chose réveille Boaz, c'est pas Ruth, c'est parce qu'il a froid. Puis son idée, ben, c'est de tirer la couverture de manière à avoir un peu moins froid. On fait la même chose quand tout d'un coup le duvet en s'endormant, vous voyez, un peu glissé ou on le souhaiterait pas. On le retire. Et là, il s'aperçoit qu'il y a quelqu'un. Et il sait pas qui. Et là, eh bien, il y a quelques heures qui sont écoulées, son cœur n'est plus joyeux, il est parfaitement lui-même, et il dit, mais qui es-tu? Le froid peut porter chance. Mais des personnes ont, par exemple, dans leur vie, eu un accident. Ils ne souhaitaient pas, mais ça leur a porté chance. Il y a des gens qui ont loupé leur TGV ou un avion. Il y a des gens qui ont perdu leur travail. Et à moyen terme, ils ont réalisé que ça leur a finalement porté chance, pour diverses raisons. Soit c'était la rencontre de leur vie, comme on a ici cette dimension-là, soit c'était quelque chose d'autre, mais c'était conduit. Et nous sommes ici scotchés par cette histoire. Je trouve ça génial, parce que nous sommes convaincus que malgré la différence d'âge à laquelle Boaz fait allusion, malgré la différence de culture, de religion, d'éducation, malgré la différence de statut social, eh bien, malgré un vécu des expériences de vie tellement différentes, nous sommes convaincus que leur relation, eh bien, va marcher. Si l'amour prend entre les deux, on se dit, mais vraiment, ça va être un beau couple. Ils vont s'entendre. C'est un couple qui va porter du fruit, c'est un couple qui va être heureux. Cette rencontre respire vraiment le divin. Et dans nos vies, comme pour Ruth, comme pour Naomi, nous avons besoin de cette grâce de Dieu. Nous avons besoin que Dieu se manifeste. Et ça, c'est encourageant. Une chose frappe, Ruth possède un bagage, une expérience de souffrance et d'épreuve. Elle a été marquée par ses expériences, c'est certain, c'est pas possible autrement. Boaz, lui, possède plutôt un bagage un peu inverse, une expérience de vie bénie, d'abondance, d'entrepreneur, d'homme, pour qui les choses sont plutôt bien allées. Ce qui est intéressant, c'est que sous l'œil avisé que nous avons ce matin face à ce texte, eh bien, de par les deux angles si différents de la vie de Ruth et de la vie de Boaz, ces deux personnages ont une immense valeur. Et c'est évident ni pour l'un ni pour l'autre. Ça m'intéresse beaucoup. Sans oublier Naomi, bien sûr, qui elle aussi est une personne de grande valeur, mais qui a passé un petit peu dans l'ombre. Je l'ai dit, Ruth pourrait être, pour ne pas dire devrait être, désespérée, dépressive, complexée face à un Boaz, effacée. Et donc, sans plus aucune ressource, elle ne l'est pas. Boaz, lui, pourrait être, pour ne pas dire devrait être, parce qu'on le voit dans le monde, mais c'est un homme qui devrait être orgueilleux, imbu de sa personne et quelque part insensible, détaché, surtout vis-à-vis d'une étrangère en plus. Nous observons de part et d'autre des personnes qui n'ont pas, malgré leur bagage, mais grâce à leur bagage, à la fois pour d'un côté la richesse et de l'autre les épreuves, ben grâce à leur bagage sont des véritables perles. Et là, la Bible nous rejoint. Ces personnes sont de véritables trésors. Ça me plaît beaucoup, car nous pouvons toutes et tous, par la grâce de Dieu, et non pas par notre intuition, notre bonne volonté, mais par la grâce de Dieu, toutes et tous, quel que soit notre parcours, eh bien, nous pouvons être des personnes de grande valeur. En Christ, nous pouvons être des personnes de grande valeur. Et nous constatons que malgré les circonstances, ben, Dieu travaille en vue de construire ou de reconstruire des vies de toutes sortes. Et c'est pour ça aussi que nous sommes appelés à évangéliser, que nous sommes appelés à partager ce que nous avons reçu, parce que nous partageons l'amour de Dieu. J'arrive à la conclusion. Des personnes de valeur. On attache beaucoup d'importance à toutes sortes de choses sur le plan matériel qui ont de la valeur. Des bijoux, des montres, comme vous le voyez là, et tant d'autres choses. On se dit, oh, mais ça doit avoir de la valeur, ça. Mais il y a des personnes de valeur. Ne les oublions pas. Jésus a dit à Thomas, celui qui m'a vu a vu le Père, et donc a vu un Dieu d'une immense miséricorde, d'un immense attachement. Dieu désire bénir, il ne désire pas maudire. Dieu désire pardonner, et il ne désire pas condamner. C'est le Dieu que Jésus nous a révélé, mais c'était déjà le Dieu qu'on trouve dans le livre de Ruth, c'est extraordinaire. Dieu connaît la fragilité des êtres humains, il connaît notre fragilité. Il compatit et désire nous sauver. Il nous sauve, il nous a sauvés, et il désire en sauver d'autres. En Christ, notre Père a un plan de salut, un plan de sauvetage. Sans Jésus, c'est désespéré. Mais il désire qu'aucun ne se perde. Ça, c'est la première dimension, cette dimension de l'appel, du salut. Mais il désire aussi que nos vies finissent toutes d'une manière ou d'une autre, d'une manière inattendue, comme dans le livre de Ruth, d'une manière extraordinaire, parce qu'en Christ, le mal est transformé en bien. Et un jour, nous serons aux côtés du Christ et il nous accueillera. Il y a ici trois personnes de valeur dans ce texte, Naomi, Ruth et Boaz. Ces personnes ont fait leur part. Il y a une grande grâce de Dieu, mais il y a aussi une part qu'elles ont fait. Alors, je termine par juste quelques éléments sur qu'est-ce qu'une personne de valeur. Et que ça puisse nous parler aussi. Si on aimerait être une personne de valeur aux yeux de Dieu, capable de témoigner aussi de notre Dieu, ça implique quoi? Eh bien, il me semble qu'une personne de valeur est, on le voit dans ce texte, une personne de parole. Naomi, Ruth et Boaz sont des personnes qui sont des personnes de parole. Ce qu'ils disent, ils le font et ils l'ont fait. Ce sont des personnes sensibles aux besoins des autres, pas seulement à leurs besoins, mais aussi aux besoins des autres. On retrouve ça chez les trois. C'est aussi des personnes qui, à leur niveau, ont le sens des responsabilités, ne baissent pas les bras trop vite. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas passer par du découragement, évidemment, mais ont le sens des responsabilités. Ce sont des personnes confiantes, patientes, des personnes aimantes, qui pensent, qui prient, et qui agissent de la bonne manière au bon moment. Et là aussi, il faut de la sagesse. On peut vouloir agir de la bonne manière et puis aller trop vite. Que Dieu nous fasse grâce, qu'on trouve le bon moment. Des personnes de valeur sont des personnes ouvertes à la vie et non à la mort. Et c'est une invitation à penser aussi dans qu'est-ce qui se passe dans notre tête. On pense souvent négatif. Moi aussi, je vous cache pas. Les problèmes d'église, les ceci, les cela, puis des fois on se dit, mais Seigneur, il y a quand même des choses qui vont bien. Et puis revenir aussi à tout ce que Dieu fait. Et ça, c'est tellement important. Voilà ce que nous apprenons ce matin. Et c'est un bon message, je trouve que c'est extraordinaire. Gardons précieusement Christ au centre de nos vies. C'est lui qui vraiment nous permet d'être riches alors que nous sommes pauvres. Nous permet d'être pauvres alors que nous sommes peut-être un peu orgueilleux, je ne sais pas. Mais en tout cas, Christ est un privilège. Christ est celui qui répare, qui conduit, qui nous dirige dans nos vies. C'est le Seigneur qui est à côté de nous. Il nous l'a promis jusqu'à la fin du monde. Nous prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es ce Dieu extraordinaire. On ne te voit pas. On ne comprend pas toujours tes plans. Mais Seigneur, que tu puisses nous donner d'être des hommes et des femmes de valeur. Des personnes qui ne pensons pas seulement à nous, mais qui pensons aussi aux autres, qui pensons à toi, qui n'oublions pas de prier, qui nous nous remettons en toi jour après jour dans nos étapes de vie, qui te faisons confiance, qui sommes remplis de patience, mais aussi remplis de détermination, de persévérance, que nous puissions, Seigneur, vraiment être transformés par la vie. Garde-nous des pensées négatives. Garde-nous, Seigneur, de toujours être dans des éléments qui nous tirent contre le bas, vers la mort plutôt que vers la vie. Seigneur, viens nous habiter par ton esprit, nous remplir de ton esprit et nous donner, Seigneur, de vivre comme Ruth et Naomi l'ont vécu et comme Boaz, eh bien encore des choses extraordinaires dans nos vies et aussi dans nos églises. Nous te bénissons, sois glorifié ce matin en Christ. Amen.